Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai entendu récemment, nous sommes des privilégiés dans un monde où les chrétiens sont persécutés. Et l'arrêt brutal, nous l'avons connu au mois de mars de cette année. Le premier confinement que nous avons vécu en France et qui a aussi concerné plus de la moitié de la population mondiale était le seul moyen radical de ralentir la pandémie. Beaucoup de chrétiens ont cherché à savoir ce que pouvait signifier un tel arrêt dans les plans de Dieu. Que signifiait, dans la volonté de Dieu, le fait, par exemple, de ne plus pouvoir se réunir en communauté chrétienne, en présentiel? S'arrêter, mais pourquoi? Pour faire une pause? Pour consommer moins? Pour passer plus de temps avec sa famille? Pour passer plus de temps avec soi. Nous avons peut-être fait toutes ces choses. Et Dieu nous livre une réponse différente dans sa parole. Dans le psaume 46 que Portes Ouvertes propose pour ce culte, l'un des versets donne la réponse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Pourquoi s'arrêter? Pour reconnaître qu'il est Dieu. Lisons ensemble le psaume entier pour connaître le contexte de ce verset. Donc, il s'agit du psaume 46. Au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent. Des royaumes sont ébranlés, il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pause. Le psaume 46 fait partie d'un groupement de textes composés par les mêmes auteurs. Les psaumes 42 à 49 sont attribués aux descendants d'un certain Corée, de la tribu de Lévi. Ce sont en fait des Lévites, des musiciens, des chanteurs qui officiaient dans le tabernacle et plus tard dans le temple. C'est un peu le groupe de louanges de l'époque. Il est question d'eux, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 6. Comme nous venons de le lire, quand Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », il semble s'adresser à un monde débordé par les guerres, un monde en conflit permanent, un monde chaotique qui ressemble beaucoup au nôtre. Ce que Dieu veut, c'est que ce que Dieu veut que le monde sache, c'est qu'il est Dieu et qu'il domine sur la terre. C'est tout ce qui importe. Et premièrement, qui est ce Dieu qui dit stop? Qui est ce Dieu qui prend la parole et qui s'adresse à nous? Eh bien, je vous propose d'observer avec attention comment Dieu est présenté dans ce psaume. D'abord, verset 2. Trois termes qualifient Dieu. Dieu est un refuge, Dieu est un appui, Dieu est un secours. Nous ne savons pas avec certitude quelles sont les circonstances qui entourent la rédaction de ce psaume. Il semblerait que le peuple d'Israël devait faire face à la détresse et sans doute à des ennemis qui l'a menacé, qui les menaçaient. Et face à ce danger, les descendants de Corée affirment avec assurance que Dieu est un refuge pour eux, pour le peuple d'Israël. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le secours de Dieu. Et face au danger, quel est pour vous le lieu le plus sûr? Quel est le lieu où vous vous sentez le plus en sécurité? Est-ce que c'est chez vous, dans votre maison? Est-ce que le lieu le plus sûr pour vous, c'est votre chambre? Imaginez un instant le lieu où vous vous sentez le plus en sécurité. Peut-être était-ce l'église quand nous pouvions encore y aller. Mais les auteurs du psaume 46 répondent plutôt que c'est Dieu, le refuge le plus sûr. S'il fallait chercher le secours le plus fiable, il se trouve en Dieu. Dans notre situation actuelle où l'inquiétude, l'angoisse gagnent tellement de personnes, souvenons-nous que Dieu est un refuge, un secours toujours présent dans la détresse. Et vous ne vous sentirez jamais plus en sécurité ailleurs qu'en Dieu. Et j'en ai pour preuve ce que nous lisons dans la suite de ce cantique, à partir du verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, etc. N'est-ce pas incroyable? Les psalmistes affirment qu'ils sont sans crainte, même quand les éléments naturels se déchaînent, même quand la mer, quand la terre se met à trembler. Nous sommes sans crainte parce que Dieu est notre refuge. Dans les versets qui suivent, Dieu est présenté comme le protecteur de sa cité. Observez le contraste. Après le mugissement des flots de la mer, nous retrouvons un cours d'eau tranquille au verset 5. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. À cette époque, la cité où Dieu avait sa demeure, où Dieu avait son temple, c'est Jérusalem, la capitale du royaume de David, la capitale du royaume des descendants de David. Et notez pourquoi cette cité n'est pas ébranlée, pourquoi elle n'a pas peur du danger qui la guette. Verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Si c'est auprès de Dieu que nous nous sentons le plus en sécurité, alors véritablement, la cité de Jérusalem n'avait rien à craindre. Une foule d'ennemis pouvait se présenter aux portes de la ville. Les psalmistes étaient certains de cela. Dieu la secourt dès le point du jour. Et de l'agitation, il y en avait. Regardez le verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il a fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. Quand des nations s'affrontent, il y a celles qui dominent et celles qui tremblent. Et vous voyez la différence. Jérusalem, au verset 6, est la cité qui n'est pas ébranlée. Et là, au verset 7, il y a des nations qui sont ébranlées. Il s'agit du même verbe. Où se situe la différence? Dieu est au milieu de sa cité. Et le reste du monde, privé de sa présence et de son secours, tremble. Dans ce même verset 7, Dieu est présenté comme le maître de la terre. Et cela continue au verset 9 à 11. Son champ d'action ne se limite pas à la cité de Jérusalem ou au royaume d'Israël. Non, son champ d'action s'étend sur toute la terre. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Quel est le pouvoir de l'Éternel? Il est question d'actes dévastateurs, de ravages causés par l'Éternel. Dieu juge les nations à cause des nombreux péchés, des nombreux crimes commis sur toute la surface de la terre. Et vous voyez au verset 10 que Dieu a aussi le pouvoir de faire cesser les combats. Dieu est un Dieu de paix et il n'a pas créé les hommes pour qu'ils s'entre-déchirent. Et nous avons cette espérance qu'un jour, Dieu mettra un terme à toutes les guerres. Pour résumer, le Dieu qui dit stop est d'abord le refuge le plus sûr pour l'être humain qui se confie en lui. Les psalmistes l'ont bien compris. Deuxièmement, il est le protecteur de sa cité, de son peuple qui lui appartient. Ils n'ont rien à craindre. Et enfin, il est le maître de la terre. Ce sont les autres qui tremblent et qui devraient reconnaître son autorité. En effet, alors que les uns et les autres rivalisent pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus fort, Dieu s'impose au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et cette parole mérite que nous nous arrêtions précisément, que nous puissions prendre le temps de nous arrêter sur ce verset en particulier. Stop. Sachons qu'il est Dieu. Alors que nous arrivons à la fin du cantique, Dieu prend la parole et se fait entendre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous pouvons nous demander à qui Dieu s'adresse ici. Qui a besoin de savoir qu'il est Dieu? Il semble que cela concerne la terre entière. Tous les peuples, quelle que soit leur croyance en d'autres dieux, doivent un jour savoir que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. En tant que chrétiens, nous le savons aussi. Et pourtant, il nous arrive de zapper Dieu. Il nous arrive de garder le contrôle de notre vie comme si tout dépendait de nous. Il nous arrive d'avoir peur, comme si Dieu n'était pas notre refuge. Nous aussi, nous avons besoin de savoir qu'il est Dieu. Et intéressons-nous d'abord à ce que Dieu nous dit. Arrêtez. Dieu demande à tous les peuples de cesser ce qu'ils sont en train de faire. Et si Dieu arrête les êtres humains, c'est parce qu'ils sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Arrêtez de vous agiter. Cessez toute activité. Et dans le contexte du psaume, cessez vos combats. Arrêtez de faire de la terre un champ de bataille. Arrêtez vos rivalités, vos querelles. Arrêtez de chercher à prouver à l'autre que vous êtes le plus fort ou le meilleur. Aux yeux de Dieu, tout cela est vain. Car ce qui compte, c'est que le monde sache qu'il est Dieu. Et nous avons vu le témoignage de Wang Mingdao, ce pasteur chinois qui a été arrêté à l'âge de 60 ans et qui a passé 23 ans de sa vie en prison. Ce confinement forcé lui a permis de se retrouver seul face au Dieu de l'univers. Pendant 20 ans, dit-il, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. Et comme nous l'avons entendu dans la vidéo, il adresse un mot à ceux qui sont trop occupés. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous, vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Pour ce pasteur chinois, la prison a été l'occasion de s'arrêter pour approfondir sa relation avec Dieu. Dieu a une intention lorsqu'il ordonne d'arrêter. Il s'agit alors de cesser de regarder à soi pour regarder à lui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Souvent, nous lisons dans l'Ancien Testament, et particulièrement chez les prophètes, que Dieu agit pour que son peuple sache qu'il est Dieu, et même pour que les autres nations sachent qu'il est Dieu. C'est dire combien Dieu tient à ce que les hommes le considèrent pour ce qu'il est vraiment. Il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il est celui qui domine sur les peuples. Il est celui qui domine sur la terre entière. Dieu se préoccupe de sa propre gloire. Il veut être reconnu pour ce qu'il est. Et à certains moments de notre vie, l'arrêt brutal peut être salutaire pour que nous sachions qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Savoir qu'il est Dieu nous remet à notre place de créature et en plus de cela, des créatures indignes. Et nous avons ce témoignage d'un frère, Amar, un chrétien égyptien d'arrière-plan musulman. Dans une situation extrême, il a vu combien il était indigne devant Dieu. Il y a quelques années, il a été arrêté et il a connu la torture, ce que ses bourreaux ont appelé l'expérience. En fait, ils l'ont placé dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur, sans lumière. Il recevait de la nourriture et de l'eau seulement tous les 3 jours. Les premiers jours, Amar a résisté à son nouvel environnement. Mais au bout d'une semaine, il a craqué. Vous imaginez une semaine enfermée dans le noir. Il raconte ce qu'il a vécu. Je pleurais, dit-il, assis dans mes propres excréments. Et les voix, ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais, crucifiez-le, crucifiez-le. Et au moment où Amar a senti que sa santé mentale lui échappait, Dieu est intervenu soudainement. Et il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, les geôliers ont ouvert la porte et ils ont été surpris de voir une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Alors qu'Amar s'est senti vide, c'est précisément là qu'il a su que Dieu est Dieu, quand il a expérimenté l'amour de Christ. Et vous avez vu combien il s'est senti en sécurité dans cet amour. Il s'est senti en sécurité. Pour revenir à notre actualité, peut-être que ce temps de confinement est pour certains l'occasion de s'arrêter. En particulier si nous avons oublié que l'Éternel est Dieu. Ou bien pour prendre conscience qu'il est Dieu. Je sais que beaucoup d'entre nous continuent de travailler, de télétravailler durant cette période. Laissez-vous interpeller par la parole de Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Avez-vous le temps dans votre semaine? Avez-vous le temps pour vous arrêter et pour reconnaître la grandeur de Dieu? Ce n'est pas celui qui travaille sans relâche qui pourra reconnaître que Dieu est grand. Ce n'est pas celle qui cherche sans cesse à faire ses preuves qui pourra reconnaître que Dieu est le seul à mériter l'honneur. Chérissez le temps que vous pouvez avoir avec Dieu. Et si cela est possible, utilisez vos week-ends pour passer davantage de temps dans la lecture de la Bible. Si vous avez un culte de famille, c'est l'occasion de s'arrêter en famille et de lire ensemble la Bible pour continuer à connaître Dieu ce Dieu qui dit stop. Nous avons besoin que notre théologie, que notre connaissance de Dieu soit façonnée par sa parole avec l'aide du Saint-Esprit. Prenons aussi souvent que possible un temps d'arrêt pour lire la Bible, pour prier, pour louer Dieu, pour être tout simplement en relation avec Dieu. Et celles et ceux qui savent qu'il est Dieu ont confiance en lui et sont remplis d'assurance. Et je voudrais terminer avec cette affirmation que Dieu est avec nous. En fait, c'est le refrain du psaume 46. Au verset 8 et au verset 12, voici ce qu'il est écrit. « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils soient en relation avec lui. Il ne s'agit pas seulement pour nous d'avoir une bonne théologie ou de savoir plein de choses sur Dieu, mais il s'agit d'avoir cette relation avec lui. Ce qui distinguait Israël des autres peuples à cette époque, c'est qu'ils étaient en relation avec Dieu. C'est que les Israélites étaient en relation avec Dieu. C'est que Dieu avait choisi en fait ce peuple dans sa grâce et dans son amour. Il avait choisi ce peuple parmi tous les autres pour faire alliance avec lui. Et c'est dans le cadre de cette alliance que Dieu s'est engagé à être le Dieu d'Israël, à être le protecteur de son peuple. Et c'est pourquoi, face au danger, les auteurs de ce psaume peuvent chanter que l'Éternel est avec eux. Et effectivement, si Dieu est avec eux, ils n'ont rien à craindre. À cette époque, Israël pouvait l'affirmer parce que c'était le peuple de Dieu. Et depuis la venue de Jésus, l'Église, la communauté des chrétiens, est le peuple de Dieu. Et nous faisons partie de l'Église quand nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Sans cela, nous sommes en dehors du peuple de Dieu. Jésus, dont il est dit dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, dont il est dit dans le même chapitre qu'il est l'enfant qui devait naître, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. À l'approche de Noël, nous nous souvenons que dans sa grâce et dans son amour, Dieu est bien descendu parmi les hommes en la personne de Jésus. Et le nom d'Emmanuel le confirme, Dieu avec nous. Le péché a creusé un tel vide en nous séparant du Créateur. Et loin de Dieu, nous cédons à toutes sortes de peurs parce que ce monde abîmé par le péché est réellement menaçant. Mais coupé de Dieu, nous pouvons céder à toutes sortes de peurs. Mais Jésus est venu jusqu'à nous. Il a réglé une fois pour toutes le problème du péché qui nous séparait de Dieu. Il a été condamné à mort à notre place. La croix est la preuve que nous n'avons plus à payer pour nos péchés. Jésus s'en est chargé. Il est mort, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie du pardon, de la réconciliation avec Dieu, du salut. Et celles et ceux qui croient que Jésus a vraiment fait cela pour eux font partie du peuple de Dieu. Ils peuvent affirmer avec certitude que Dieu est avec eux. L'Église peut affirmer que Jésus, le Seigneur, est avec elle. Car lui-même a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu avec nous. Est-ce que, comme les auteurs du psaume 46, tu peux affirmer que Dieu est avec toi? Tu peux le dire seulement si tu fais partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui est encore un jour donné par Dieu pour que tu saches qu'il est Dieu. Aujourd'hui est encore un jour donné par Dieu pour que tu lui fasses confiance et que tu lui remettes ta vie, que tu renonces à tes péchés à ton train de vie sans Dieu et que tu te laisses sauver par Jésus qui a payé pour tes fautes. Autrement, jamais tu ne pourras dire que Dieu est de ton côté. Jamais tu ne pourras dire que Dieu est avec toi. Il est encore temps de faire le pas et de reconnaître qu'il est Dieu. Et si tu crois en Jésus-Christ, sache que Dieu est avec toi. Ce n'est pas une manière superstitieuse de notre part de nous convaincre que Dieu est avec nous. Il n'y a pas de superstition là-dessous. Il est vraiment avec nous. Et nous pouvons le dire parce que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous faisons partie de son peuple. Nous appartenons à Dieu et Dieu est de notre côté. Nos frères et sœurs persécutés aussi peuvent avoir cette assurance que Dieu est avec eux, alors même qu'ils passent par des moments difficiles. Et dans ta vie de tous les jours, Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu peux dire « Je ne craindrai rien, même au milieu des épreuves ». L'alliance que Dieu a établie avec nous est une alliance éternelle. Et au dernier jour, lors du jugement dernier, quand tous les peuples devront reconnaître qu'il est Dieu, tu seras sauvé, même si ta vie aura été très difficile sur cette terre, tu seras sauvé. Dans notre situation actuelle qui révèle toute notre fragilité humaine, là où nous sentons le plus en sécurité, c'est lorsque nous nous réfugions auprès de Dieu, lorsque nous lui faisons pleinement confiance. Et pour cela, nous devons reconnaître qu'il est Dieu et qu'il maîtrise tout. Et pour reconnaître qu'il est Dieu, nous devons nous arrêter pour prendre vraiment le temps de dire « Oui, tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre. Que toute la gloire te revienne. » Pour reconnaître qu'il est Dieu, nous devons nous arrêter pour prendre le temps de dire « Oui, tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre. Que toute la gloire te revienne. » Ce deuxième confinement que nous vivons est l'occasion d'une manière ou d'une autre de nous arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Ce psaume 46 nous encourage dans ce sens. Arrêtons-nous et sachons qu'il est Dieu. Arrêtons-nous et sachons qu'il est avec nous. L'avenir est flou. La situation peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Personne ne peut le prédire. Mais les vérités qui concernent Dieu dans ce psaume ne changent pas. Nos frères et sœurs persécutés peuvent l'attester. Si nous nous arrêtons, nous verrons qu'il est ce refuge dont nous avons tant besoin dans notre vie. Si nous nous arrêtons, nous nous rendons compte qu'il est vraiment le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Et en nous souvenant que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, nous pouvons démarrer cette semaine avec cette assurance. Dieu est vraiment avec nous. Et cela est vrai tous les jours. Après tout ça, avons-nous vraiment quelque chose à craindre? Je vous invite à prier. Notre Père, nous avons pris ce temps pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous nous sommes arrêtés devant toi pour que tu nous instruises encore, que tu nous rappelles que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Comme nous l'avons chanté aussi, nul n'est comme toi. Et pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons tendance à l'oublier, à oublier que tu es Dieu, lorsque nous menons un train de vie qui montre que nous nous sommes faits nous-mêmes, Dieu, à ta place. Mais en réalité, Seigneur, tu nous montres très clairement, et d'autant plus avec notre actualité, que nous ne maîtrisons rien, parce que toi, tu es Dieu, et que tout est entre tes mains. Mais merci, Seigneur, parce que en prenant conscience de qui tu es, nous apprenons aussi à passer plus de temps avec toi. Et en fait, dans un monde si menaçant, nous avons tellement besoin de trouver notre refuge auprès de toi. Nous pourrions chercher à nous rassurer avec le matériel, le confort, la sécurité. Mais en fait, rien de tout cela n'est vraiment sûr. Toi seul, tu es notre refuge. Et merci pour cette assurance que nous avons, que tu es présent avec nous. Oui, nous voulons tellement te remercier de nous donner cette assurance tous les jours de notre vie, que tu es avec ton Église, que tu es avec chaque chrétien, chaque chrétienne, et que nous pouvons compter sur toi à tout moment. Tu es ce secours toujours présent dans la détresse. Et c'est pour cela que nous voulons continuer à te louer durant ce culte. C'est pour cela que nous voulons continuer aussi à penser à nos frères et sœurs qui peuvent aussi avoir cette assurance alors qu'ils sont persécutés, que tu es avec eux. Et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.